Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé. Le chip est en danger.
Rendez-nous le chip.
Le soleil est enfin revenu, super. Mais vous feriez mieux de vous préparer aux 45 degrés du mois de juillet qui vous attendent, car la fin du monde est proche.
Ok.
Mais heureusement, vous écoutez le chip, donc tout va bien. Je suis Mélanie Wanga et je suis, comme à chaque épisode, entourée de mes deux compères François Oulac.
Salut Mélanie.
Et Kevin Donat.
For real this time.
Deux jeunes hommes dans le vent qui sont allés traîner leur Stan Smith au festival de musique Wheel of Green le week-end dernier. Alors personnellement, je suis restée bosser à la maison, donc vous devez me raconter.
C'est ça ?
Ouais, non. Vous devez me raconter, c'était comment Wheel of Green ?
C'était intense.
Ouais, c'était cool.
Des hauts, des bas. Moi, j'ai beaucoup aimé FKA Twigs. Je trouvais que c'était très bien le samedi soir. Non, j'ai vu des artistes assez top. Je suis content. Vald, c'était cool. Hamza, c'était cool.
Booba,
c'était pas terrible.
Ouais. Il était pas très investi, on va dire.
Ouais.
Alors, je tiens à dire que je n'ai jamais possédé de Stan Smith de ma vie. Je suis détenteur d'une paire de Vans montantes.
Et de Timberland.
Oui, et également.
Moi, je suis Timber Max.
tu peux également l'être. Merci aux gens qui nous ont donné du love. Hein. Dans Wheel of Green, on a croisé deux, trois auditeurs du Chip qui nous ont dit que a priori c'était plutôt cool, donc merci à eux et à elles, ça fait très chaud au cœur.
Ok, alors cette semaine on va mettre cap sur le continent africain et on va aborder avec François la série sénégalaise Maîtresse d'un homme marié qui fait un petit peu sensation dans la diaspora partout dans le monde et qui attire aussi les foots des censeurs.
Partout dans le monde, je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est une série super intéressante et on va vous expliquer pourquoi.
Et qui fait beaucoup de views en plus.
Ouf.
Ouais, ça cartonne. Et puis pour fêter la sortie de l'album Igor de Tyler the Creator, le 17 mai dernier, Kevin va nous parler de l'œuvre et surtout de l'homme, donc Tyler the Creator.
Golf Wang.
Okay.
Toujours. Hot Future, Wolfgang King's Amol ou pas ?
C'est depuis le début.
All day, every day.
Mais on commence par le trash ou iconique.
Alors moi, mon iconique cette semaine, c'est un homme américain qui s'appelle Robert F. Smith. Il y a deux semaines, en fait, ce milliardaire noir américain a joué les philanthropes pour sa communauté. Ça m'a laissé un peu rêveur. Donc je vous explique, si vous n'avez pas entendu parler de cette affaire, Robert F. Smith, c'est le noir le plus riche d'Amérique. Sa fortune est estimée à 5 milliards de dollars. Et en fait, il était présent pour faire un discours de remise de diplôme à Morehouse. Morehouse, c'est ce qu'on appelle une HBCU, une fac noire, basé à Atlanta et réservé aux hommes. En fait, il y a le pendant féminin qui s'appelle Spellman, qui est pas très loin. Et en fait, Robert Smith, il avait une surprise pour ses étudiants. Il a dit qu'en fait, il n'était pas là juste pour se contenter de faire un joli discours, mais qu'il voulait mettre un peu d'essence dans leur bus. Donc, il va rembourser les emprunts de la promotion 2019. Le calcul du coût est encore en cours, mais on estimerait qu'il y en aurait pour environ 40 millions de dollars. Donc, c'est un geste assez fort. Mon opinion personnelle, c'est qu'il y a plein de choses à dire en ce moment sur les milliardaires, qui payent pas leur juste part d'impôts, qui contribuent pas suffisamment, qui utilisent
parfois... Ils payent plus l'ISF.
Voilà, exactement, qui utilisent leurs moyens pour faire avancer un agenda ou pour faire de la com, etc. Mais en fait, là, ce qui est intéressant, c'est le fait que les universités, en particulier les universités noires, galèrent en ce moment, que c'est une question politique, la question des HBCU. Par exemple, Morehouse, cette fac en question, ils se vantent d'être l'université qui a produit historiquement le plus d'avocats ou de médecins noirs. Donc, c'est un lieu de black excellence assez important aux États-Unis. Et en fait, le truc, c'est que les HBCU, qui sont ces facs historiquement noires qui galèrent un peu, de plus en plus doivent s'ouvrir à des étudiants non noirs. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on parle de HBCUs en France, par exemple, les rares personnes qui en parlent me disent souvent « Ouais, mais c'est pas bien, c'est des lieux de repli identitaire, que c'est communautaire, que c'est réservé aux étudiants noirs. » En fait, les HBCUs ne sont pas réservés aux étudiants noirs. Évidemment, il y a une forte majorité d'étudiants noirs, puis d'étudiants racisés, c'est-à-dire que c'est des universités qui doivent s'ouvrir aux étudiants latinos, aux étudiants amérindiens, asiatiques, etc.
Puis à la base, les HBCUs, ça a été créé parce que les Noirs ne pouvaient pas aller dans les collèges blancs.
Parce qu'il y avait de la ségrégation, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est aussi à la fois une réaction, mais aussi une preuve de capacité à s'organiser seule, à mettre en avant des savoirs qui sont pas seulement centrés sur une culture occidentale, blanche, dominante, etc. Et pour aller un petit peu plus loin, au-delà de, oui, il y a un philanthrope qui a été sympa, il y a 6 mois à peu près, sur la chaîne YouTube de Vice, il y a eu un petit documentaire qui s'appelle « Being a White Student at a Historically Black College », donc être un étudiant blanc dans une fac historiquement noire, et on suit pendant 7-8 minutes le seul étudiant blanc, de Morehouse, et comment ça se passe pour lui.
Le token blanc,
mais qui en même temps est évidemment super humble. Je suis conscient que j'ai peut-être pris la place de quelqu'un d'autre, et donc c'est mon devoir de devoir le donner le meilleur de moi-même, et en même temps de respecter leurs différences, etc. Donc voilà, c'est très intéressant. Iconique pour Robert Smith et pour le HBCUs, et que ça continue.
Alors moi, j'avais envie de rendre hommage à une phrase, une personne, un mème, quoi, qui continue à devenir virale encore aujourd'hui et qui m'apporte toujours beaucoup de bonheur. Donc je voudrais parler du mème Anna Hoop, et surtout de son autrice, de sa créatrice, la drag queen Jasmine Masters, qui sont tous les deux iconiques. Alors, c'est toujours compliqué d'expliquer un mème, hein, parce que c'est typiquement un truc qui vient d'Internet, qui est destiné à être consommé sur Internet. Mais bon, on va essayer. Un mème, c'est une blague récurrente qui peut se partager et se démultiplier à l'infini sous forme de vidéos, de gifs, d'audio, de textes ou d'images. Alors, si vous ne connaissez pas le mème Anna Hoop, c'est ça.
Anna Hoop.
C'était court.
C'est très court.
C'est même le plus court.
Donc la voix, c'est celle de Jasmine Masters, une drag queen américaine qui a participé notamment à la 7e saison de RuPaul's Drag Race, qui est une émission de drag, en fait, hein, qui est revenue dans la 4e saison de All Star. Donc, mais ce qui a rendu Jasmine Masters véritablement célèbre sur Internet, c'est sa chaîne YouTube, où elle poste des vidéos de type un peu story time, où elle raconte face cam des événements de sa vie perso. Et du coup, elle utilise un slang, elle invente des expressions comme le josh. Le josh, c'est le swag ou le truc. À la place de dire stuff, tu dis josh. Et elle a fait tout du merch autour de ça. Et bien sûr, aussi, elle associe donc toutes ses inventions linguistiques avec des mimiques et des faces qu'elle fait qui sont incroyables. Donc ça fait un peu d'elle l'amie qu'on aimerait tous avoir, et ça pallie aussi le manque de succès relatif qu'elle a pu avoir chez RuPaul, parce qu'elle s'est fait virer assez rapidement de l'émission. Donc Anna Hoop, c'est un extrait d'une vidéo qui s'appelle Handle Your Liker, où Jasmine, vêtue un peu d'une robe bleue, de boucles d'oreilles énormes, qui ressemblent un peu à des chandeliers, se plaint de ceux qui tiennent pas l'alcool et font n'importe quoi quand ils ont bu. Alors à un moment, elle s'interrompt en milieu de phrase, ce qui donne Anna. Et le « oop », c'est un dérivé de « oops », et qui en fait, c'est une expression qui veut dire « voilà, j'ai été surpris ». J'étais emportée dans ce que j'allais dire, puis d'un coup, je suis surpris. Et donc, le mème a été maintes et maintes fois repris, imité, détourné, remixé, utilisé dans diverses situations. Mais pour ma part, j'ai vraiment un faible pour la version « dance ».
C'est de la machina, tu sais.
Ouais, il va très très loin ce mème, parce que... Et il prouve surtout...
Ah mais c'est un truc de Nicki Minaj ça.
Oui, c'est un truc de Nicki Minaj,
ouais.
Il prouve qu'on peut faire un bop avec 2 bouts de ficelle et une bonne phrase. Donc le mème n'est pas nouveau, la vidéo date de 2015, et la phrase a déjà été plusieurs fois utilisée par le gay Twitter, mais on peut dire qu'elle est véritablement devenue mainstream ces dernières semaines. L'essence des mèmes, en général, et de Anna Hoop en particulier, c'est de parvenir à retranscrire une émotion qui est universelle et de nous permettre de l'appliquer à plusieurs situations de nos vies à nous. Donc ici, c'est Anna Hoop, c'est l'étonnement matiné de subtil embarras. C'est quelque chose qu'on a tous vécu au moins une fois. Donc voilà. Et de nos jours, je trouve que dans une situation politique, culturelle, comme on est actuellement, Anna Hoop, c'est un peu la réponse idéale à tout ce qu'on peut entendre ou lire comme news sur Internet. Et en plus, c'est même pas le seul mème qu'elle a créé, Jasmine Masters. Donc, pour finir, je voulais juste te dire que ce qu'elle produit, Jasmine Masters, ça se rapproche de la comédie, hein, presque du stand-up. Parce que, en parlant d'elle, je voulais vraiment parler de la créativité de la culture drag, et de la culture drag noire en particulier. Il faut savoir qu'au sein de l'émission de RuPaul, les queens noires sont souvent visées par des attaques et du harcèlement raciste en ligne, et alors que leur inventivité et leur avant-garde n'est même plus à démontrer. Donc Jasmine, quant à elle, elle a répondu à cette vague de sollicitations, parce qu'elle a été interviewée par plusieurs médias, en disant « Le monde est tellement dingue et négatif, donc si je peux apporter un peu de lumière et aux gens et les faire sourire, tout va bien pour moi ». Et pour finir, je décerne un bonus iconique à la version longue du mème, parce que si on va jusqu'au bout de la vidéo,
Anna Hoop,
on va apprendre pourquoi Jasmine dit Anna Hoop. Et on n'est pas déçus.
Oh. I just hit my balls.
Alors pour le Trachico des réseaux, on avait un sujet très clivant, très politique, totalement enflammé, napalm, cocktail Molotov. Il y a un peu plus d'un mois, Usain Bolt débarquait à Paris pour faire la promotion en grande pompe d'un service de trottinette électrique. En fait, il a investi de l'argent dans une société qui s'appelle Bolt. Alors, je précise quand même que du coup, ce n'est pas Usain Bolt qui a créé la société.
On avait une discussion là-dessus, voilà. Est-ce que c'est lui, ouais.
Et c'est pas Bolt l'appli de taxi à Paris
qui... Eh ben justement, on va en parler. Parce qu'en fait, la société donc s'appelait Bolt avant, et elle a approché Usain Bolt pour faire sa promotion parce que, hey, bête de coup marketing, n'est-ce pas, ouais. Sauf qu'il y a déjà une société de mobilité dont tu parles à l'instant, qui s'appelle Bolt et qui était anciennement
ex-Taxify.
Du coup, qui les ont attaqués et qui leur ont donné une injonction en justice pour qu'ils changent leur nom. Et du coup, maintenant, Bolt s'appelle B-Mobility. Voilà, donc on a fait un petit sondage. Vous avez été 179 à voter. On vous a demandé tout simplement ce que vous en pensiez. Est-ce qu'on valide le fait que, voilà, que Usain Bolt nous offre une nouvelle invasion, on va dire, de trottinettes électriques sur les trottoirs des grandes villes parisiennes, des grandes villes françaises. 6% de personnes ont dit trop pratique. J'aime beaucoup les trottinettes électriques. 49% ont dit OSEF, donc on s'en fout. Et 45% ont dit à mort la trottinette. Donc évidemment, courte victoire pour OSEF. Certains de nos utilisateurs n'habitent pas forcément en région urbaine ou sont tout simplement titulaires du permis B. Mais gros plébiscite, comme tu disais, Kevin, pour à mort la trottinette. Alors c'est marrant parce que je trouve que c'est un sujet très clivant, ouais. Parmi les gens qui habitent dans les grandes villes. Je sais pas si vous avez déjà parlé autour de vous de trottinettes électriques, si vous avez des amis qui les utilisent.
Bah moi je pense à Joey.
Ouais,
à peu près tu name and shame direct.
Tout l'Instagram de cet ami là, c'est des trottinettes cassées, sa haine pour la trottinette, comment la trottinette représente la Startup Nation. Ouais.
J'ai remarqué que soit on l'utilisait. Ouais. Un petit peu dans le malaise d'ailleurs, un petit peu dans la honte, tu sais, un peu comme un plaisir coupable, soit vraiment on la détestait. J'ai vu qu'il n'y avait pas de...
Moi je m'en suis servi la première fois et la seule fois à Los Angeles, mais il n'y en avait pas encore à Paris, et quand je suis arrivée, quand je suis revenue du voyage, ça y est, l'invasion avait commencé.
T'étais une early adopteuse.
C'était pas du coup les mêmes marques que nous en France.
Mais du coup on a cette invasion avec notamment Lime à Paris, avec toutes ces trottinettes
qui sont complètement laissées à l'abandon dans la rue. Et j'avais lu une fois un tweet que je trouve quand même assez... C'est juste ce qu'il disait, mais pensez aux personnes handicapées aussi, en fait. Qui sont dans la rue et qui sont obligés de se taper ces espèces d'obstacles sur les trottoirs.
Bien sûr,
Tu vois.
Bien sûr. Non, la trottinette est problématique et j'avais envie qu'on en parle. Déjà, première chose, qui a envie d'être sur une trottinette électrique? C'est une première question que je pose vraiment de manière très sincère. Dans le sens où il me semblait qu'on avait déjà banni la trottinette non électrique il y a 10 ans. Parce qu'on avait l'air vraiment très con dessus, vous vous souvenez?
Les hommes d'affaires à la Défense.
Voilà, les hommes d'affaires à la Défense, avec leurs petites cravates et leurs petites oreillettes Bluetooth sur leur trottinette. On avait déjà dit non à ce moment-là. Et
mais
du
qui
coup...
ont le peuple ou la loi, quand tu dis on?
Alors, je parle du peuple ainsi que de la morale.
Okay. Les lecteurs des Inrock.
Voilà, et du bon sens commun. Et puis, si vous avez envie de montrer que vous êtes un jeune loup actif de la Startup Nation et que vous votez Macron... Il y a qu'à le dire, en fait. Pas besoin de monter sur ces engins de mort qui envahissent nos trottoirs, parce qu'on sait pas s'ils doivent être sur la chaussée avec les voitures ou sur les voies de vélo, parce qu'il y a pas vraiment de législation.
La trottinette est macroniste.
Alors, c'est ma théorie personnelle. Et puis, écologiquement, évidemment, ce sont pas des solutions de transport durable, puisque batterie au lithium, abandon, etc., pas biodégradable, tout ce que vous voulez.
Ça, l'espérance de vie de 1 mois et demi, à peu près.
Je vais aller encore plus loin, for the sake of the culture et de la wokeness. Je vais jouer un peu les hot tech pendant 2 minutes.
Okay.
Le capitalisme, ça a commencé comment? Le capitalisme et le système bancaire.
Avec l'esclavage.
Ça a commencé en 1492 avec la découverte du Nouveau Monde et l'esclavage qui a permis de faire un surplus de richesse pour l'Europe, qui a créé de la capitalisation pour les banques, et c'est comme ça que ça a commencé. Frères et sœurs noirs, say no to the white devil. Je vais beaucoup trop loin.
Ça a escaladé vite, hein.
J'ai vu apparaître une couronne et une tenue traditionnelle là, en te regardant.
Dites non à la trottinette électrique. Je suis à court d'arguments pour dire non à la trottinette électrique. Je décerne un trash à Usain Bolt pour la trottinette électrique.
Pour la collaboration.
Say no to the white devil. On est ensemble. Wakanda forever. Alors Game of Thrones, c'est fini dans la sueur, les larmes, le sang et les excréments et les et les sécrétions de la voix. Breaking Bad, je me suis mis à Breaking Bad il y a pas longtemps, ouais. Et je trouve que c'est une série, une bonne série, divertissante, mais un petit peu surestimée peut-être. Donc voilà, je me suis dit que j'allais mettre à une nouvelle série. Je cherchais un petit peu et j'ai découvert cette série sénégalaise qui fait beaucoup parler d'elle depuis le début de l'année, qui s'appelle Maîtresse d'un homme marié. Voilà, j'étais sur Twitter, je scrollais un peu et je vois beaucoup de tweets, beaucoup d'articles aussi. Sur certains médias qui parlent de cette série qui fait beaucoup de débats notamment. Maîtresse d'un homme marié, donc, c'est un soap un peu similaire à ce qu'on, à une telenovela latino-américaine, ou à une série, vous savez, américaine du style Les Feux de l'amour.
Les vieux feuilletons, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est un feuilleton à rallonge, ou même une série française comme Plus belle la vie, par exemple. Mmh. Donc, en gros, c'est une série qui, avec des moyens de production, on va dire, et une mise en scène plutôt, basique et qui
sobre,
se focalise
spartiate.
Sobre, ouais, on va dire ça et qui se focalise sur les histoires de cœur et les ambitions personnelles d'un casting de personnages haut en couleur. J'ai commencé un peu à regarder par curiosité et puis j'ai très vite accroché à l'univers. C'est typiquement le genre de série que j'aurais regardé sur AfroStream par exemple, si AfroStream existait encore.
RIP petit ange, parti trop tôt.
Parti trop tôt. Je vous fais un pitch rapide. Donc en gros, on suit les péripéties de 5 femmes dakaroises. Donc d'abord, on a Lala, qui est donc mariée avec Sheikh, sauf que Sheikh entretient une liaison secrète avec Marem. On a donc Marem, qui travaille dans une boîte commerciale et qui a une collègue de travail qui s'appelle Jalika. Jalika et Marem sont amies, sauf qu'elles se cachent des trucs, en fait. Marem fait croire à Jalika qu'elle a des douleurs au ventre ou à la tête pour, en fait, aller rejoindre son amant Sheikh en douce pendant les heures de travail. Et Jalika, elle ne dit pas à Marem qu'en fait, elle est dans une relation
hyper abusive,
abusive, ouais, psychologiquement, avec son mari Biram, qui, franchement... je sais
pas. Fuckboy.
Ouais, franchement, je sais pas où vous en êtes dans la série, mais on
il
sent.
Il va loin.
Ouais, voilà, il va super loin et on sent que ce mec-là, il va faire vraiment du sale dans la série. Bref. Ensuite, on a la meilleure amie de Jalika qui s'appelle Dior, qui est une célibataire endurcie et qui dit franchement, meuf, jamais je me marie si c'est pour me retrouver dans une situation comme la tienne. Et on a enfin Raki qui est contre-maîtresse du coup sur un chantier. On comprend que Raki, elle vient pas du même milieu social que les autres personnages qui sont plutôt aisés. Raki, ouais, elle est plutôt dans un milieu populaire, elle a pas beaucoup d'argent.
Elle est avec une maman un peu marâtre.
Avec sa mère, voilà, horrible.
Exactement, elle évite les hommes en fait. Elle évite les hommes parce qu'elle a contracté une infection après avoir été abusée sexuellement quand elle était plus jeune. Et elle est prise en tenaille entre sa mère qui passe son temps à la traiter de bonne à rien, ouais, en disant tu rapportes pas assez d'argent, etc. Et son patron qui la drague très 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 lourdement.
Même et, et son patron, c'est le mari de... C'est pas celui qui va faire du sale ?
Non, c'est une relation professionnelle. En fait, le okay. Biram ouais. Connaît le patron de Raki. Okay. Mais c'est pas
okay,
son mari.
D'accord.
Donc c'est un soap. C'est ça.
Voilà, c'est totalement un soap. On suit les aventures de ces 5 meufs qui représentent finalement chacune une facette stéréotypée, certes, de la femme sénégalaise. Donc on a la femme traditionnelle. Là, vous savez, c'est la femme un peu traditionnelle, mariée, épouse parfaite, on va dire. On a la working girl Kairis, on a la fêtarde, etc. Même si voilà, tout ce casting quand même gravite, on va dire, autour de Marem, qui reste le personnage principal, qui est incarné par une actrice qui s'appelle Alimatou Gadji, et donc qui donne son nom à la série. On a des personnages secondaires qui sont assez sympas, notamment Hamza. Moi, j'ai un petit crush sur Hamza, crush scénaristique sur Hamza, qui est la meilleure amie de Marem, et qui passe son temps à lui dire « Meuf, ne fais pas ça. Meuf, je te dis pas le faire. Mec, ne touche pas à ma copine. I told you so », etc. Donc c'est vraiment le personnage, je le trouve, un peu, vous savez, indispensable dans ce genre de série. Et donc, en gros, voilà, l'intrigue, c'est des ragots, des mensonges, des trahisons, avec un message en toile de fond, je sais pas si vous serez d'accord, qui est quand même le message récurrent, c'est Men Are Trash. Genre Ménard,
oui, Ménard Trash, mais quand même on a besoin de quoi.
Ouais, on a besoin d'eux, mais parce qu'il y a pas un homme dans cette série qui soit pas acheté. Enfin, entre le mari infidèle, ouais, le patron relou, le mari abuseur, enfin c'est un truc de ouf. Moi, c'est le premier truc qui m'a un peu choqué dans cette série. Donc voilà, la série est un énorme carton au Sénégal et elle commence un petit peu à percer, on va dire, dans les pays francophones, parce qu'en fait même si les acteurs parlent moitié français, moitié wolof, la série
plutôt deux tiers, un tiers, voire trois quarts, un quart. Hein.
Ouais, même
ça dépend, mais ça dépend des personnages. Mais bref, ouais.
Ouais, voilà. Puis je pense qu'ils ont un peu le rapport. C'est ce que tu disais avant l'émission. Ils ont ce rapport. J'ai l'impression au français. Bon, le français, langue officielle quand même au Sénégal, mais ils ont ce rapport un peu comme.
C'est la langue. Quand tu es au boulot ou quand tu veux bien parler, quoi.
Ouais, voilà.
Quand tu veux draguer. Moi, je remarque souvent que les hommes et les femmes qui se rencontrent dans la série, au début, quand par exemple, tu fais des flashbacks, etc.
Salut ma chérie,
tu veux un moment de plaisir. Enfin, c'est vraiment genre. Et on a ça aussi en Marseille.
Mais moi, j'ai l'impression que c'est presque, hein, c'est pas exactement la même chose, mais ouais, le même rapport qu'au créole, où le créole, ça va être la langue de la familiarité, en gros, et de l'intimité. Et puis, voilà, le français, un truc plus officiel. Mais bon, bref, en tout cas, la série est entièrement. Sous-titré en français et gratuite sur YouTube. Du coup, j'ai l'impression qu'elle commence un peu à percer, notamment chez nous. Il y a 35 épisodes qui sont sur YouTube depuis le début de l'année, plus d'1 million de vues par épisode et pas mal de polémiques au Sénégal sur lesquelles on va revenir après. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous ai un peu dit en mode, il faut que vous le matiez, etc. Est-ce que vous avez
tu veux commencer, Mel?
Ouais. Moi, j'ai trouvé ça, mais moi, de toute façon, je suis totalement cliente des soaps et des histoires de meufs qui essayent de s'en sortir dans un monde impitoyable. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que c'est vrai que nous, en tout cas moi, personnellement, j'ai un regard extérieur à ça. J'ai jamais vécu en Afrique et je trouve ça vraiment intéressant de voir les relations, comment elles se parlent entre elles, comment elles parlent aux aînés aussi. Le fait que même quand tes parents en fait, te maltraitent et te disent les pires choses, bah, en fait, toi, t'es là, genre, je t'ai fait à manger. Enfin, je trouvais ça intéressant de voir cette relation, ces différents types de relations. Mais pareil, moi, ça m'a assez surpris, comme tu disais, que tous les mecs soient nul à chier et que les meufs quand même se disent oui mais moi il est marié avec moi il m'aime, moi machin, et tu te dis enfin en gros les hommes tout est ouvert pour eux, c'est open bar quoi, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, de toute façon la société a appris aux femmes qu'il fallait un homme et qu'il fallait qu'un homme t'aime et te garde pour que t'aies de la valeur.
Est-ce qu'il y a une scène de la série qui t'a particulièrement marqué, que t'as bien kiffé?
Bah, je pense qu'on a la même avec Evie, mais bon j'en parle. C'est la scène où alors par contre les prénoms je suis pas tout à fait sûr. Est-ce que c'est dans l'épisode 3 Marem, qui en fait il y a la petite fille de la femme chez qui elle est qui dit ah t'es sur le téléphone de papa.
Ah oui c'est quand Marem est chez Lala justement.
Ouais, la scène c'est qui est tellement bizarre en fait.
Elle est où, cette scène? Ultra chelou.
Ça dure hyper longtemps et
tout le monde est mal à l'aise.
Au bout d'un moment je fais écoute meuf, c'est pas parce que tu me dis de rester que je vais rester, donc bonne journée.
Il y a une sorte de face à face à ce moment
avec le mari qui a la petite goutte là qui coule on se connaît pas.
Ouais, parce qu'en gros Marem et Lala se croisent devant chez Lala et donc Marem à ce moment-là sort littéralement de chez son amant, sort littéralement du pieu du gars, et la meuf elle comprend pas que c'est elle, mais en gros elle commence à la soupçonner et elle l'invite chez elle. Mais moi je pense qu'elle a fait exprès de l'inviter chez elle pour la jauger, tu
mais
vois.
Mais à la fin Marem elle troll quand même, elle fait ah ton mari je le connaissais là quand on était en première et tout.
Elle joue grave avec le feu. Et puis t'as la scène comme tu disais avec la fille, je crois que la fille s'appelle Nouria, qui fait ah maman j'ai retrouvé ton téléphone.
Ouais papa j'ai ton téléphone, il y a la femme qui est dessus et tout.
De ouf, parce qu'elle a trouvé le téléphone de Marem.
Ouais, c'est un peu surréaliste cette scène, mais je trouvais qu'il y avait quand même de la tension dramatique. T'es là, tu fais putain est-ce que ça va exploser ou pas là, ta tante est devant ton écran.
Mon cœur a fait un bond. Kev, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, moi ce que j'ai bien aimé aussi, en dehors d'une scène précise, c'est je trouve ça toujours passionnant de regarder un peu les bourgeois d'ailleurs. Ce à quoi ils aspirent, dans quelle voiture ils roulent, quel téléphone ils ont, quels vêtements ils mettent, etc., les références et tout. Et pour le coup, souvent, moi, dans ce que je regarde, je me sens un peu pris entre soit des trucs, pour simplifier, américains, britanniques, ou des trucs franco-français. Mais là, de voir une série, pas juste une série noire, c'est pas juste une question de la couleur de peau, c'est juste une série sénégalaise, profondément sénégalaise. Non. Je trouve ça fascinant.
Faut que tu regardes des dramas coréens et japonais.
Nope. Et, non, parce que du coup, très honnêtement, honnêtement, les soaps, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je regarde. J'ai subi Amour, Gloire et Beauté et compagnie petit, mais ce qui m'intéresse, c'est de regarder un soap sénégalais ou ivoirien ou malien et pas de regarder un soap pour regarder un soap pour si il est coréen. Ouais. Je regarderais du cinéma coréen, machin, mais pas du.
Bah justement, ce que tu dis là, ça m'inspire un peu la première réflexion que m'a inspiré la série. J'ai envie qu'on parle en fait du rapport donc qu'on a dans la diaspora aux telenovelas et aux soaps, justement. Il y a un article de Vice qui est assez intéressant qui s'intitule Aux Antilles, on ne présente pas avec les telenovelas, si je dis pas de bêtises. Et en gros, ça t'explique en substance quoi. Les hexagonaux, en gros, trouvent les telenovelas et les soaps niais, débiles, peu intéressants d'un point de vue qualitatif, alors que dans les départements d'outre-mer, ils ont beaucoup de succès. Donc moi, je pense, ça me ramène tout de suite à des souvenirs comme Ruby, Marimar, Des Jours et des Vies.
Ouais.
Vous vous rappelez de Côte Ouest ou pas?
Côte Ouest.
Bien sûr.
Sunset Beach.
Non, oh, c'était tellement
bien regardé.
Ça passait sur TF1.
C'était génial.
L'après-midi.
Ma sœur, elle m'imposait Sunset Beach.
C'était tellement bien.
Tu te rappelles de la fin de Sunset Beach ou pas, même?
Ouais, c'est parti complètement en couille à la fin. Il y avait des trucs surnaturels et tout. Des pierres qui rendaient fou, malade ou je sais pas quoi et tout.
Ça commence comme les feux de l'amour et ça finit, mais complètement.
Twilight Zone.
Et la fin de la série, c'est qu'en fait, la meuf, elle a rêvé. Parce qu'elle a été interrompue et tout.
C'est Meg qui a rêvé?
C'est Olivia, la rousse, tu sais. Qui était amoureuse du pasteur. Bref. Mais en fait, aux Antilles, c'est une sorte de rituel. La telenovelas ou le soap américain, c'est une sorte de rituel. On se pose devant, en famille ou juste les tantes, les tatis. On suit ça et puis après on va commenter les réactions des personnages et les rebonds scénaristiques comme si on les connaissait, comme s'ils faisaient partie de la famille.
Est-ce c'est un peu le cas avec Plus belle la vie en France dans certaines familles?
Moi, c'est le seul exactement. C'est le seul parallèle que je fais. Et puis Sous le soleil peut-être aussi.
Mais Sous le soleil.
Non, c'est la même formule.
Et puis c'était hebdo, c'est pas quotidien. Ouais.
D'accord, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, plutôt Plus belle la vie, donc ce qui est drôle, hein, parce que les hexagonaux se moquent des Antillais avec les telenovelas, alors qu'ils font la même chose avec Plus belle la vie. Anyway, oui.
Moi, j'ai un truc à rajouter. Tu parlais Antilles, Martinique, Guadeloupe. Je crois que c'est même plus gros que ça. Parce que moi, je me suis rendu compte en arrivant ici que tous mes amis issus de la francophonie, marocains, Afrique de l'Ouest, Antilles-Guyane, ils ont tous regardé les mêmes séries, les mêmes telenovelas que t'as mentionné, les Marimar et tout comme ça. C'est pas juste pour nous, c'est les mêmes doubleurs un peu pétés, parce que les doublages sont pas toujours au niveau. Mmh. Et ça marche dans tout le monde francophone bizarrement moins en France hexagonale.
C'est ça qui est ouf. Moi, je me rappelle d'un souvenir de ma sœur. À chaque fois qu'on retournait aux Antilles, elle fait plus ça maintenant, mais ma sœur, c'est pas une grosse consommatrice de séries. Ouais. Mais quand on rentre aux Antilles, elle se remet, alors qu'en temps normal, elle regarde pas, elle se remet au Feu de l'amour. Mmh. Et comme l'intrigue avance ultra lentement.
T'es jamais trop perdu. Quoi.
C'est ça, elle reste un an sans regarder, elle remet deux épisodes et c'est bon, elle est à jour. Et l'un des souvenirs que j'ai de ma grand-mère, c'est après le repas, généralement en début d'après-midi, c'est vers 14-15h quand tout le monde est un peu assoupi après la bouffe et puis le petit digestif, dès qu'on entendait cette musique.
Il y a un côté équitation dans le générique que j'aime.
Ouais,
c'est pas faux, hein. Tu galopes, ce serait dommage de mettre un insert trop loin et de se faire flaguer juste pour ça, parce que ce serait vraiment moche.
Qui font rêver.
Dès qu'on entendait Amour, gloire et beauté, ma grand-mère arrêtait tout ce qu'elle faisait et nous, si on était devant la télé, il fallait juste dégager, lui laisser le canapé central et il fallait que ma grand-mère regarde Amour, gloire et beauté. C'était.
Pourtant, c'était nul, Amour, gloire et beauté.
Mais en fait, c'est la même chose que tous les soaps. Ils sont tous nuls en fait.
Mais moi, j'aimais bien les feux de l'amour, la limite. Ouais,
mais moi, c'est ce que j'allais dire, elle fait une diff entre les deux. Okay.
Parce que moi, je trouve que les feux de l'amour, il y avait. Enfin, moi, c'était Drusilla et Neil, quoi. Enfin,
d'accord.
La black representation. Je sais pas, j'étais fascinée quand j'étais petite. Vrai, je regardais, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Et je comprenais pas, parce qu'en France, on n'avait pas de séries avec des couples noirs comme ça, tu vois. Donc je regardais, je trouvais ça fou. Alors que l'amour ou la beauté, je trouvais ça nul.
Il y a un truc, il y a un peu de ça, justement, je trouve, dans je pense, l'attrait que les telenovelas ont chez nous. Moi, j'y vois d'abord un truc très, très martiniquais, mais aussi un peu guadeloupéen, mais j'y vois un amour du ragot, de ce qu'en Martinique on appelle le Milan, dans ce genre de séries, parce que c'est que des séries de ragot, finalement, avec des trahisons, des meufs qui trompent leur mari, etc.
Du macrelage.
Exactement, du macrelage. Et puis j'y vois aussi une forme de proximité culturelle. C'est ce qu'aussi l'article de Vice, que je vous mettrai en lien évidemment, rappelle. C'est qu'on a la présence de personnages racisés et on a une forme de décentrage culturel par rapport aux séries américaines qu'on consomme d'habitude. Je pense que par exemple, des Antillais ont beaucoup plus en commun culturellement avec des Brésiliens de telenovelas qu'avec des Américains blancs. Donc je pense aussi que c'est pour ça que ça marche. Et en fait, ce succès donc des telenovelas et des soaps, on le retrouve aussi sur le continent africain en fait. Là, il y a une chaîne qui s'appelle Novelas TV, une chaîne du groupe Canal+, qui est la première chaîne de télévision en fait à dépasser les 10% de part d'audience selon une étude de 2017 sur le continent Afrique, sur la partie notamment francophone. Donc ça veut dire quelque chose. Et en fait, Maîtresse d'un homme marié, elle émerge au Sénégal, cette série, dans un contexte de reprise en main de la création, en fait, des séries. C'est-à-dire que les Sénégalais regardent également beaucoup de telenovelas latino-américaines et depuis quelques années, ils commencent à produire leurs propres séries, leurs propres
soaps. Cool.
On a des séries comme Pod et Marichou, sur laquelle je reviendrai un petit peu, sur Idol, sur Wiri Wiri, qui ont un succès de ouf et qui enjaillent le public. Et donc c'est des séries créées par des Sénégalais et pour des Sénégalais. Et ce qui est encore plus intéressant, donc cette espèce de bouillonnement de nouvelles séries sénégalaises, c'est que Maîtresse d'un homme marié, c'est une série qui a été écrite et scénarisée par une femme. Une femme qui s'appelle Calista Sy. Et c'est ce qui lui donne, en fait, je pense, un surplus d'âme, de réalisme social et notamment une portée sociétale, en fait. Parce que la série a créé beaucoup de remous et de débats au Sénégal.
Non, j'ai rien à ajouter.
J'ai cru que tu allais dire quelque chose.
Non, j'allais juste te dire que j'avais pas trop compris les débats et les polémiques parce que moi, de mon point de vue, de quelqu'un qui regarde HBO, les séries Netflix, etc., je trouve ça super chaste.
Ouais, mais je pense que c'est parce que là, ça s'applique justement à la société sénégalaise.
Je n'en doute pas, mais c'est juste que quand je regarde le truc, je fais, j'aime bien, c'est rigolo, mais je vois pas non plus le truc super sulfureux, quoi.
Oui, ça, mais c'est clair. Il y a une plainte d'une ONG islamique qui s'appelle Jamra contre la boîte de production de la série. En fait, souvent, la série, elle se fait taper dessus à la fois par des associations et des institutions conservatrice islamique, il faut rappeler que le Sénégal il a 95% musulmans, mais aussi sur internet par des gens qui trouvent juste que voilà, c'est une série un peu sulfureuse. La série a été mise en demeure par le CSA local, le CNRA, parce que voilà, selon certaines ONG, notamment Jamra, ce serait une série qui
contraire aux mœurs de la culture,
c'est ça qui promeut en gros l'infidélité, la dépravation. La série s'appelle littéralement Maîtresse d'un homme marié, donc voilà. Il y a même eu une plainte pour par rapport à leur équivalent de la loi Evin, c'est-à-dire qu'il y a une scène dans une chicha en fait dans un des épisodes de la série et il y a une association qui est venue taper sur la série en mode oui comment ça se fait machin, ça promeut le tabac alors que la chicha c'est toxique, etc.
Les scènes de grande violence ou susceptibles de nuire à la préservation des identités culturelles.
Ouais, donc pour moi
ça veut rien dire.
À partir du moment où
c'est ce que je te disais, c'est l'identité du.
Mais c'est tellement vague.
C'est vague,
comme concept.
C'est pour ça que HBO ou même les scènes de cul dans d'autres soaps, ils s'en foutent. Mmh. Mais par contre, quand tu reflètes la société dont il est question, ça passe moins bien.
Ouais, c'est ça en fait. Et puis bon, faut oublier aussi que ce sont des conservateurs. La majeure partie du public sénégalais, de ce que je lis, est quand même plébiscite quand même la série. Mais les conservateurs sont dans leur rôle, on va dire.
Oui, parce que dans les commentaires YouTube, les gens, ils ont l'air de dire « Ah, pour une fois qu'on montre la vie, que c'est difficile. »
Ouais, exactement. Moi, c'est ça qui m'a fait kiffer, en fait, dans la série. Et c'est ce que disent les défenseurs de Maîtresse d'un homme marié, c'est qu'en fait, la série dépeint surtout, c'est pour ça que ça gêne, des femmes libres et indépendantes. T'as cette espèce de réalisme social, t'as des thèmes qui sont quand même très durs par rapport à beaucoup de soaps qu'on connaît qui sont un peu gnangnan et roses. Là, on parle de violence domestique, on parle d'agression sexuelle.
Oui, le ton n'est pas celui d'une comédie, en fait. Moi, c'est ça qui m'a surpris quand j'ai commencé à regarder. Le ton est quand même assez sérieux.
Ouais, il y a des passages comiques, mais ils arrivent à te faire passer vraiment des messages politiques et sociétaux ultra, ultra durs. Et du coup, j'ai testé d'autres séries sénégalaises un peu pour avoir des points de comparaison, pour pas poser vraiment mon regard de sale français,
vendu,
eurocentré sur la série. Et j'ai maté Pod et Marichou, qui est un autre gros succès de la même boîte de production, qui s'appelle Maraudi TV, et qui a également produit Maîtresse d'un homme marié. Et Pod et Marichou, j'ai regardé quelques épisodes, c'est ultra bubblegum. C'est genre, c'est vraiment Hélène et les garçons. C'est des groupes de jeunes sénégalais. Et en gros, ben, t'as des histoires de cœur. Et c'est en mode, les personnages féminins, pour le coup, sont ultra, ils sont ultra stéréotypés. En mode, ah, voilà, moi, je me consacre entièrement à mon mec, etc. Voilà, machin. Et puis, on est tous là, on est tous en paix dans la foi en Allah. Et ça, c'est pas très sulfureux, quoi. C'est pas, même dans la mise en scène, tu sais, t'as des vieilles musiques, etc. Enfin, ça fait, ça, pour le coup, là, on est dans le versant des soaps que les gens n'aiment pas d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc un peu cheap. Enfin, c'est mon avis. C'est une série beaucoup plus conservatrice. Alors que là, on a des scènes. Il y a une scène, moi, qui m'a beaucoup marqué. Il y a deux scènes qui m'ont marqué. Il y a une première scène où vous avez, je sais pas si vous l'avez vu, quand la bonne amie de Lala, celle qui justement vient rendre visite à Lala au moment où Lala et Marem sont ensemble, vous savez, avec la scène du téléphone.
Celle qui a le truc bleu là sur la tête.
Voilà, c'est ça. Cette amie-là qui vient souvent, qui est un peu un personnage de. C'est la bonne amie de Lala, mais c'est aussi un peu une tantine.
Un peu plus âgée, c'est ça.
Voilà, un peu plus âgée. Il y a une scène où elle vient rendre visite à Lala dans le magasin de vêtements dans lequel Lala travaille. Et elle lui propose des trucs, en fait. Elle lui offre des cadeaux, elle lui propose des trucs pour garder son mari. Elle lui dit voilà, tiens, mets ce pagne, espèce de pagne avec des perles à mettre autour du ventre. Elle lui dit voilà, mets ça autour de ta taille, ça va l'aguicher comme ça. Voilà, il faut qu'une femme fasse ça pour garder son mari. Et puis après, elle lui propose une petite poudre marron qu'on voit pas très bien, un petit sachet marron. Et en fait, ce sachet, c'est du tabac. On appelle ça le tabac. C'est un nom un peu générique, mais en fait, c'est une drogue sexuelle qui fait des ravages justement, notamment au Sénégal. C'est une sorte de poudre qu'on appelle la poudre de Sédiou également, et qui crée en fait des cancers du col de l'utérus et des addictions et des maladies, des vomissements et des trucs comme ça. Et donc, forcément, manque d'éducation.
Et donc, c'est censé faire quoi l'effet de cette poudre ?
C'est censé être.
C'est aphrodisiaque, c'est quoi ?
Voilà, c'est censé être un aphrodisiaque qui décuple les sensations à la fois pour la femme et pour le mari. Sauf qu'en fait, c'est un truc ultra dangereux, on sait même pas ce qu'il y a dedans, et c'est toxique, tu vois. Et donc, la meuf propose la poudre à Lala, et Lala dit : mais attends, mais tu te rends pas compte, elle lui dit : t'es un assassin ambulant. T'es un assassin ambulant, tu te rends pas compte que ces poudres-là, ça crée des cancers du col. Donc là, tu vois, t'as de la sensibilisation. Ouais. Vraiment en direct dans la série, c'est très très actuel, très très immédiat, et j'ai trouvé ça très cool.
Mais ils font un vrai usage des objets, des choses que les gens utilisent. Notamment, il y a aussi du placement produit.
Du placement produit.
Quand elle fait sa lessive, elle prend le savon
la main,
et elle met comme ça.
Et les trucs de mayonnaise aussi, c'est le sponsor, parce que t'as une minute de sponsor,
de
pub avant le début de chaque épisode, et les produits sont placés.
Quand elle reçoit des quand Cheikh, donc le mari de Lala, couvre de, il y a un flashback où il couvre de cadeaux Marem pour la séduire, il envoie plein de cadeaux à son bureau, et tous les cadeaux ils sont dans les sachets, et c'est que du placement de produits. C'est assez marrant.
Je voudrais te dire, François, passe-moi le Perrier s'il te plaît. Aurais-tu un critérium de
Perrier? Tu sais. Et il y a une autre scène qui m'a beaucoup marqué, où Marem parle avec Hamza, sa meilleure amie que j'aime bien, donc et donc elle dit qu'elle l'aime. En gros, Hamza lui dit mais t'es sûr que tu veux continuer et tout, il est marié, ça sert à rien, les hommes ils t'ont fait souffrir d'habitude, enfin ça vaut pas le coup, quoi. J'essaie de te protéger, t'es mon ami, j'essaie de te protéger. Et en gros, Marem dit mais moi j'aime Cheikh et je me fiche qu'il soit marié. Et elle tape ses parties intimes comme ça, elle tape son entrejambe et elle dit ça c'est à moi, et je fais ce que je veux et je donne à qui je veux.
Girl power.
Exactement. Et ce genre de scène là, c'est typiquement ce genre de scène là qui a provoqué justement la colère des conservateurs au Sénégal. Il y a un article de la journaliste Mariam Gay sur le site Africa is a Country, c'est le vrai nom du site, mais en fait c'est un site très cool que je vous recommande.
Ouais, c'est un peu provoque, mais ouais.
Ouais, c'est un super site qui s'intitule Senegal's Fear of Outspoken Women, donc la peur du Sénégal des femmes revendicatives et libres.
S'exprime, hein.
Et en gros, elle souligne que les religieux sont assez prompts au Sénégal à intervenir pour des cas de mœurs comme ça, tu vois, alors qu'ils vont être beaucoup plus circonspects lorsqu'il s'agit du sort des talibés, qui sont des enfants en fait, qui sont envoyés souvent loin de chez eux pour suivre une formation religieuse, mais qui en fait sont livrés à eux-mêmes, qui finissent dans les rues, qui sont exposés à l'état de sévices. Donc elle dit voilà, en gros, bizarrement les religieux sont là quand c'est pour condamner les femmes qui parlent, mais pas quand c'est pour le sort des talibés par exemple. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai beaucoup aimé Maîtresse d'un homme marié pour tout ça. C'est une série cool, c'est addictif,
petit budget,
ouais. mais
grandes ambitions.
Ouais, non.
Exactement. On n'a pas d'argent, mais on a des idées. Et surtout, c'est une série super moderne et progressiste. Donc, big up à Calista C qui a offert cette série. Je pense qu'elle a un potentiel de. Ouais.
Petit truc, je crois que France 24.
Ouais.
A arraché les droits et va diffuser. Ouais, j'ai vu ça. Et c'est tombé la semaine dernière, quelque chose comme ça. Je crois que c'est France 24 qui va avoir les droits
de diffusion.
Ouais.
Ils vont mettre où sur Franço ?
Je sais pas.
Mais non, Franço, c'est bientôt fini.
Mais en vrai, ça veut dire que peut-être que ce sera plus sur YouTube s'il y a les droits qui sont rachetés. Peut-être que ce sera plus accessible en France. Je sais pas.
Donc regardez vite.
Ouais, regardez vite, c'est cool. Et surtout, c'est gratuit sur YouTube. Donc profitez-en. Fuck Netflix.
Ouais, moi je vais vous parler, comme promis en début d'émission, je vais vous parler de Tyler et d'Igor. Donc j'en ai déjà parlé une ou deux fois de mon amour pour Tyler. C'est un personnage que j'ai découvert début des années 2010 avec un single qui s'appelait Yonkers, où il mange un cafard, un truc filmé quasi.
Il vomissait,
il se pendait à la fin. C'était assez gore, mais tout le monde était fasciné. En fait, ce morceau, c'est son premier vrai succès. Et en fait, je viens d'apprendre il y a pas longtemps que c'est une parodie.
À la base, ça devait être un peu une blague parce que lui, il est de la côte ouest et il voulait faire un morceau où il parodie, caricature un peu les rappeurs de la East Coast. Et donc, ce morceau-là, c'est Yonkers et ça a tout explosé parce que le clip est assez fantastique et qu'il rappe très très bien. J'avais vu aussi un truc que j'avais trouvé vachement cool. Il était passé, un de ses premiers lives, c'était chez Jimmy Fallon. Mmh. Il était à l'époque, donc Out Future, son collectif. Et il avait 20 ans, il est monté sur scène et ils ont tout brûlé. C'était assez extraordinaire. Il y avait Mos Def qui les connaissait pas, qui en pouvait plus. Et puis ensuite, j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour le bonhomme, pour son attitude, mais jusqu'à Flower Boy, jusqu'à 2017, une grande partie de son œuvre, de sa discographie était assez inaudible. Je pense notamment, enfin, il y avait beaucoup de hurlements, d'expérimentations. L'album Cherry Bomb, qui est celui qui est donc son album avant Flower Boy.
C'est quand même cet album-là qui a vraiment initié sa pharrellisation ultime, quoi.
Je crois que ça a toujours été là, hein.
Ça a toujours été là, bien sûr.
Ça a
toujours été son idole.
Mais effectivement,
c'était le premier qui était écoutable, je veux dire.
Bah, Cherry Bomb, il dit tout le monde a détesté cet album. Il le dit, tu vois, Cherry Bomb. Ouais. Il le dit en interview. Je suis conscient que cet album-là a pas marché. Et en fait, il y a un tournant dans sa carrière. C'est Flower Boy en 2017, qui est un de mes albums préférés de tous les temps et qui m'accompagne encore depuis 2 ans. En gros, là, il y a Igor qui a été teasé il y a quelques semaines avec des vidéos assez étranges, une sorte de campagne électorale avec des pins votés Igor. L'album est sorti le 17 mai. Grosse attente. Tyler a recommandé d'écouter l'album sans distraction.
Et sans penser que ça allait être un album de hip-hop.
Exactement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai téléchargé l'album sur Spotify. Je suis parti de chez moi à minuit. J'ai mis mon téléphone en mode avion. Et j'ai
Quel rebelle, ce Kevin.
Ouais, voilà. Donc, en fait, pour moi, l'idée derrière Flower Boy, mais aussi vraiment derrière Igor, c'est que Tyler montre aux hommes noirs comment pleurer sans être larmoyant et que c'est OK d'avoir le cœur brisé. Ce que je pense, c'est que... Déjà, Tyler, c'est une sorte de rescapé de la cancel culture, parce que dans les années 2010, vraiment dans sa jeunesse, il a toujours eu des propos très provoques. Il allait très loin dans l'homophobie, l'apologie de la violence et des choses comme ça. Donc, il en a beaucoup pâti parce que ça lui a certes fait de l'exposition, mais en même temps, il n'a pas le droit.
Ça l'a rendu infréquentable.
Ça l'a rendu infréquentable, et surtout, il est interdit d'entrer en Australie.
Ah ouais.
Et jusqu'à il y a quelques semaines, il était aussi interdit d'entrer au Royaume-Uni. Pour ses propos,
à cause de ses propos homophobes
et sexistes, etc. D'accord. Sauf que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, parce qu'en 2017, dans Flower Boy, il commence à se dévoiler sur la question de son identité sexuelle. On ne sait pas trop s'il parle d'un homme, d'une femme, lorsqu'il parle de ses relations sentimentales, sexuelles, etc. Et au fur et à mesure, il y a cette idée de ne pas rentrer dans des cases. Il y a une phrase qu'il dit justement dans Flower Boy qui m'a beaucoup marqué, c'est « Tell black kids they can be who they are ». Dites aux enfants noirs qu'ils ont le droit d'être qui ils sont. Avec justement cette idée que les carcans qu'on a pour la masculinité noire sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus étroits. Tyler a toujours voulu s'extirper, en tout cas c'est quelque chose qu'il fait depuis quelques années, s'extirper des clichés de la masculinité noire. Il y a en gros, il y a 3 ans, il faisait une présentation de sa collection de vêtements. Et au cours de à la fin de la présentation, il présente toutes ses nouvelles fringues, etc. Il y a ça qui est intéressant.
You know, growing up as an inner city black kid, I wasn't the most masculine. You know, I wasn't into sports. I liked pink and shit, you know, and growing up liking pinks and colors and patterns and all that shit wasn't cool.
Ouais, donc là, en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'il a toujours été une sorte d'outsider parce que justement, il avait des goûts qui étaient différents et qu'il tombait pas dans la masculinité classique de ce qu'on attendait d'un jeune homme noir. Donc, il dit qu'il a toujours aimé le rose, qu'il a toujours aimé la mode et que ça n'a pas toujours été cool pour lui et qu'il en a beaucoup souffert. Après ça, il raconte aussi qu'il y a quelques années, voilà, il s'était fait juger par un ami à lui qui disait que voilà, un vrai homme ne porte pas de rose parce qu'il s'était pointé dans un shop avec un très beau hoodie rose et qu'à l'époque, c'était pas la mode et qu'on l'a envoyé chier. Et qu'il fallait porter du noir, qu'un vrai homme noir portait du noir, que les vrais mecs durs portaient du noir. Et à la fin, il raconte que ce mec-là, il est encore vendeur et que lui, Tyler, il a sa collection de fringues, qu'il est internationalement reconnu, etc. La deuxième chose aussi qui me marque, c'est que Flower Boy, comme je vous disais tout à l'heure, ça a été un tournant dans la carrière de Tyler. Et pour lui, il a toujours un rapport très difficile à la communauté noire parce que sa musique ne passait pas. C'est-à-dire que souvent, on trouvait que son goût pour la punk, pour le punk, pour les choses trop alternatives, ça aliénait souvent son public noir. Et dans une conversation qu'il a avec Gerald Carmichael, juste après la sortie de Flower Boy, il dit ça.
Super distorted. I was like, last night, I went to, me and Lionel went to like a house party, mm-hmm. and they all the songs they were playing, Senorita by Justin, Tell Me by Total, Frontin' by Pete, like all these house party songs. And See You Again came on. And it's full of black people that for sure go to clubs.
Yeah.
And they were in there like singing the lyrics, and I was like, oh shit, I've always wanted that.
To just have black people
I did dance. Yeah, yeah. So hyped. And we were playing Jenga and I was being cool about it, but inside I was like, oh shit.
You're going crazy.
I finally have something that they could do that to.
Ouais, donc en fait, ce qu'il dit là, c'est que à la sortie de Flower Boy, il a été à une sorte de house party. Et on passait du Justin Timberlake, Señorita, on passait plein de morceaux de R&B. Et on passe See You Again de son nouvel album de l'époque. Et là, il y a des Noirs. Et pour la première fois, il voit des Noirs qui kiffent sa musique, qui chantent ses morceaux. Il se dit, j'ai réussi enfin à donner quelque chose à la communauté qui leur plaise. Donc, Igor, ce nouvel album qui arrive il y a deux semaines, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit une ressucée ou une suite très classique de Flower Boy. En fait, c'est pas du tout le cas. Là, il se réinvente, il rappe moins, c'est un album concept assez unique en son genre. Et puis, il s'affirme aussi de plus en plus comme producteur, c'est son premier album numéro 1. Et d'ailleurs, il a tout produit du début à la fin.
Il était super content d'ailleurs que ce soit numéro 1.
Numéro ou non, en fait, il y a beaucoup d'artistes qui font « je m'en fous d'être numéro 1, je m'en fous que ça marche, je m'en fous d'être populaire ». Tyler, il est à la fois hyper provoque, mais il veut que les gens l'aiment, et il s'en cache pas. Donc, qui est Igor? Igor, c'est un personnage grotesque, une sorte de sidekick. Igor, c'est un personnage qu'on trouve souvent dans la SF, dans le fantastique. L'importance des personnages secondaires, moi, c'est quelque chose qui me touche en plus beaucoup. Igor, il est quelque part entre Quasimodo, ce serait une sorte de personnage entre Quasimodo et Steve Urkel, pansexuel, noir, à plusieurs voix. Donc, il y a beaucoup de featuring sur cet album, des featuring qui sont souvent masqués. En fait, il n'y a pas de. Si on écoute l'album sur, je sais pas, sur Spotify, on n'a pas Solange, ensuite Kanye West.
Il y a zéro mention.
Il y a zéro mention et c'est volontaire. Son idée à lui, c'est que les gens doivent écouter l'album du début à la fin. Igor, c'est une œuvre collective et il ne faut pas juste aller écouter le featuring de Kanye West dans le désordre.
Oui, c'est ça, parce que moi, c'est la première chose que je fais quand j'écoute un album de rap, je regarde la tracklist et je vais
et
au.
Tu vas voir là où t'aimes les gens.
Là où il y a mes gens, ouais, c'est ça.
Donc non, là, il joue vraiment le personnage. En plus, ce qui est intéressant, c'est que dans la promo de son album, il continue à être Igor, donc il porte cette espèce de perruque atroce, blonde avec un costard.
Blonde au carré, là.
Ouais, blonde au carré, avec des... Enfin, un peu une sorte de... un peu comment il s'appelait, cette chanson?
Sia.
Non, ouais, Sia, mais je pensais à une française, là. Super populaire en Russie. Vous savez qu'il y a une...
J'allais dire Mimi Mathy, mais c'est
dire
c'est Mireille Mathieu.
Mireille Mathieu, voilà.
Mireille Mathieu,
il a un peu une Mireille Mathieu, mais en
la coupe au bol, quoi.
Une espèce de coupe au bol dégueulasse.
Mais du coup, ce que tu disais sur le fait que le personnage pansexuel et tout, effectivement, ça va. C'est un peu le miroir opposé de ses propos homophobes d'il y a quelques années,
ouais.
En fait.
En fait, depuis des années, il disait, mais. Non, mais je vous dis, je suis pas homophobe, hein, les gars. Je vous promets, je suis pas homophobe, parce que je suis pas homophobe. Ouais. Et donc, il y a quelques années, il avait tweeté un truc du genre « Ouais, les gens disent que je suis homophobe, mais je suis en train d'essayer de faire mon coming out, vous comprenez pas ?» Et comme c'est quelqu'un qui a toujours trollé, on pensait qu'il était pas sérieux. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Et il est pas très ouvert, en fait, sur la question de son orientation sexuelle. Et justement, le personnage Igor lui permet de s'exprimer un peu plus, de passer par le biais un peu du masque ou de la perruque, pour le coup, pour faire tout ça. Même si avant, il avait déjà un peu parler de ses crushs, par exemple, il est obsédé par le jeune Leonardo DiCaprio. Il le dit souvent,
oui, c'est vrai,
que son modèle de beauté absolu, c'est
un homme blond et blanc.
Voilà,
white supremacy.
C'est Leonardo DiCaprio époque Roméo plus Juliette.
Ouais. Voilà. Il y a un lyrics comme ça qui avait pas mal interpellé sur Flower Boy où il disait qu'il était dans une Lambo à côté d'un enfant blanc. D'un jeune homme blanc et faible, blanc et blond.
Pas d'un enfant.
I'm
currently looking for 95 Leo. Voilà, c'est ça le lyrique. Dans Igor, il parle d'un amour qui n'est pas réciproque. Il parle de rejet, il parle de jalousie, il parle d'amertume. La question de l'orientation sexuelle arrive souvent de façon très subtile. Par exemple, il va dire « I wish you had called me by your name ».« Call me by your name », film avec... comment il s'appelle ?
Timothée Chalamet. Hammer.
Exactement, sur une histoire d'amour entre deux hommes. Et en fait, il y a beaucoup l'idée du triangle amoureux qui arrive dans Igor. Le morceau, par exemple, « New Magic Wand ». Donc, il dit qu'il a une baguette magique, le Magic Wand. Et en fait, c'est un outil sur Photoshop pour effacer les gens. Et donc, il veut effacer la petite amie de son crush en utilisant un Magic Wand.
Et au fur et à mesure, on comprend aussi que le Magic Wand, c'est une arme à feu et qu'il va peut-être les tuer. Donc,
et puis tu sais ce que c'est que le Magic Stick aussi dans, voilà, dans la culture hip-hop.
Le sexe, voilà. Ouais. est-ce que vous avez des morceaux en particulier, des choses qui vous ont interpellé, qui vous ont plus plu que d'autres, qui se détachent pour vous dans, ouais, dans l'album Igor?
J'ai pas de morceau en particulier qui ressort. D'abord parce que, comme tu dis, il a été pensé de manière très
globale, en fait.
Très globale, très monolithique. Monolithique, c'est un peu, ça fait un peu péjoratif, mais moi je le vois de manière, je vois ça comme un compliment. En fait, il est très très homogène, très cohérent cet album, et très court. Ouais. Ouais, c'est ça qui m'a,
ça fait du bien. Hein.
40 minutes, 45 minutes.
39 minutes, je crois. 40 ouais, minutes, ça. Quelque chose comme ça. Comparé à des espèces d'albums playlist avec 25 morceaux et puis on voit ce qui prend, ce qui reste.
Exactement.
Ça fait Drake, Migos, etc. Tyler, il est vraiment control freak et il n'y a pas de gras, en fait. Il élimine de plus en plus de choses et ouais, on arrive à quelque chose de compact, de dense.
Moi, je voulais juste dire que j'ai apprécié parce que, effectivement, je connaissais pas avant qu'on en parle
tu
pour l'émission.
Tu connaissais pas Tyler The Creator?
Je connaissais deux noms, mais j'avais jamais écouté, on va dire, je m'étais jamais penchée. J'avais sûrement entendu une de ses chansons dans une playlist, mais je m'étais jamais penchée sur son œuvre. Du coup, j'ai écouté Flower Boy et Igor à la suite, plusieurs fois. Et effectivement, ce que j'ai apprécié dans cet album, en tout cas, c'est la manière dont il a pensé ça de manière hyper cohérente, avec le début qui est un peu une présentation du personnage Igor, de qui c'est, de ce à quoi il rêve, et ensuite le déroulé de l'histoire d'amour qui se passe pas bien jusqu'à Are We Still Friends.
Ouais.
Et je trouve que, d'ailleurs, j'aime bien Are We Still Friends, et je trouve que c'est vraiment... c'est la construction, elle est cohérente, et en même temps, c'est beau, quoi. Et effectivement, j'ai pris une claque, quoi, en termes de son et tout...
Moi, quelque chose que j'ai trouvé très fort, c'est tu parlais de la construction. En fait, tu sais, il y a des extraits, il y a des interludes où il y a un mec qui parle. Ce mec, c'est le fameux J-Rod Carmichael. Ces extraits-là que t'entends, c'est juste après la sortie de Flower Boy. Il a fait une interview d'à peu près une heure avec J-Rod Carmichael, qui est un ami proche à lui. Et ensuite, dans l'album suivant, dans Igor, ils utilisent des petits bouts de l'interview pour faire ça. J-Rod Carmichael, énorme jeune comédien noir américain de stand-up, hyper talentueux, qui lui aussi est vachement dans la déconstruction de certains clichés de la masculinité. Je vous recommande d'aller voir justement le stand-up de J-Rod Carmichael, qui est disponible sur OCS, et pour une fois c'est pas Netflix, avec les sous-titres en français, produit par HBO, enfin voilà, c'est une grosse tuerie. Et tu disais quoi d'autre, Mélanie, que t'avais pris une claque sur la qualité du son?
Ouais, je savais pas trop à quoi m'attendre et tout, et effectivement je trouve que les sons et la manière dont il utilise, je sais pas, l'imagerie qu'il utilise, ce qu'il fait passer comme message est porté par les sons. Par exemple, pour comparer avec l'album de Kanye qui était assez court aussi, il me semble, le dernier.
Ouais, c'était assez court.
Je trouvais qu'il y avait moins, que c'était moins cohérent. Là, j'ai vraiment l'impression d'être face à une histoire qu'on me raconte, en fait. Comme si j'allais me coucher le soir et que le mec me dit voilà, j'étais amoureux, voilà comment ça s'est passé.
Ouais, non, rien de plus à dire, je suis complètement d'accord, sauf que Kanye, c'est quand même, avec Pharrell Williams, une des influences majeures de
Ça se sent d'ailleurs que c'est un peu un descendant et que...
Franchement, ouais, moi, tu dis qu'il s'est éloigné de Flower Boy d'un point de vue...
Moi, j'ai pas trouvé que les deux albums étaient
franchement,
complètement opposés, quoi.
Ouais, dans la couleur...
Pour les avoir
écoutés
l'un après l'autre...
Franchement, il a les mêmes claviers que sur Flower Boy et, par extension, les mêmes que Pharrell.
Je trouve que ce qui fait de sa voix,
tout ça c'est différent.
C'est différent. Ouais. Et je trouve que le mixage,
oui,
c'est pas un mixage d'album de rap, en fait. C'est un peu, c'est un peu lofi, c'est un peu influence punk. C'est dans ce sens-là où il y a pas de morceaux qui se distinguent et qui te permet, à part peut-être justement le premier single Earthquake, mais sinon t'as pas vraiment de morceaux comme sur Flower Boy, comme je sais pas See You Again, qui sont des tubes que tu vas entendre en soirée et que des gens qui connaissent pas Tyler vont faire ah ok d'accord, ça j'adhère tout de suite. Je pense que Igor est beaucoup plus exigeant et demande une première écoute complète. Des morceaux pris un peu comme ça en dehors et jetés dans des playlists, à mon avis ça prendra moins.
Est-ce que t'es en train de dire que Igor c'est un peu l'équivalent de When I Get Home de Solange?
What?
J'ai cru entendre dire que c'était un album exigeant.
Bah, tu vois, quand l'album commençait à sortir, moi sur les réseaux sociaux, j'étais comme un ouf, et je disais c'est ma Solange. J'attends François Hollac qui me dit non mais t'as pas compris les références, tu m'as dit machin, c'est de la musique élitiste, tu comprends pas. Non, moi j'avoue que je suis fan de peu de choses. Il y a peu de d'artistes qu'on critique devant moi. Je dis non, tu peux pas dire ça de machin. Je m'en fous à peu près de voilà. Mais il y a deux ou trois personnes comme Tyler et Frank Ocean où je suis là, ouais, attention.
Qu'est-ce qu'il a de plus, ce mec-là, que les autres weirdos, tu sais, en ce moment, du rap et du R&B, qui font des trucs révolutionnaires, du coup, mais tu vois, c'est ça que, c'est
bah,
ça que
bah, j'ai bah, du mal. Bah, déjà, je pense que sans Tyler, sans Hot Future, t'as pas de Brockhampton, t'as pas ce truc-là.
Oui, ça, c'est clair.
D'un point de vue esthétique, c'est Tyler, c'est un touche-à-tout. Donc, il s'appelle le créateur, c'est vraiment le créateur parce que c'est quelqu'un qui rappe super bien. Mais souvent il dit qu'il en a marre de rapper et que entre temps le mec il a 28 ans, il a déjà eu produit une série, créé sa marque, enfin c'est vraiment un artiste à plein de facettes différentes et demander ce qu'il a de plus que les autres, ben il a tout de plus que les autres quoi, il dépasse de la tête et des épaules.
La fan girl quoi.
Un homme de la renaissance quoi.
Pourquoi tu dis la fan girl, c'est sexiste Mélanie.
Regarde ce que je viens de voir sur internet, ABC picks up Pilot from Nate Bargatze and Gerald Carmichael.
Alors, Nate Bargatze, c'est une bête de stand-upper et il est blanc, il est très blanc, il vient du Tennessee et c'est drôle. Et Gerald Carmichael, ouais, j'avais vu qu'il avait un nouveau truc avec HBO, mais j'ai pas réussi à le pirater pour l'instant. Donc, dommage. Est-ce qu'on a fait le tour?
Ouais, qu'est-ce que tu veux dire en conclusion?
Ouais, en conclusion, je dirais que pour moi, Igor a un projet excitant parce que le fait qu'il ait tout produit lui-même en ayant des invités de marque comme Playboi Carti, Solange, CeeLo Green, Kanye West, d'autres, j'en passe, ça me donne l'envie de le voir aussi dans un rôle de producteur. D'un travail où en fait il va aiguiller d'autres artistes, il va faire un peu de la curation. Et passer de Tyler the Creator à Tyler the Curator, ce serait aussi intéressant et voilà, je suis assez comment dire ravi de voir un artiste de 28 ans qui arrive à ce niveau-là, qui est passé par plein de bas, les problèmes qu'il a eu, les backlash, les polémiques qu'il a eu, il les a mérités, il les a cherchés, il a tenu des propos parfois aberrant, etc. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression que le mec, il a mûri. À l'époque, c'était un jeune de 19-20 ans à qui on donnait un micro et donc il disait tout ce qui lui passait par la tête.
Et puis qu'il luttait aussi avec sa propre identité sexuelle.
Avec ses démons, avec ses
trucs homophobes. Hein. C'est parce que lui-même, il refoulait.
Ouais,
et...
donc voilà. Donc gros big up à Tyler. Et puis c'est cool.
On se donne.
Alors, Marocco, cette semaine, c'est un podcast indépendant qui s'appelle le Moicast, qui est produit par un ami à nous qui s'appelle Samora Curier, un ami guadeloupéen. Depuis début 2019, Samora se penche sur les identités antillaises, donc il reçoit dans chaque épisode un invité, il parle avec cet invité, un homme ou une femme, de ce que ça représente, le fait d'être antillais, martiniquais, guadeloupéen, etc. La plupart des gens qu'il reçoit, d'ailleurs, vivent ici, donc en Hexagone. Le nom du podcast, le Moicast, donc Moicast, MWAKAST, ça vient du mot moica, qui est un terme péjoratif utilisé pour désigner les Antillais, parce qu'on dit souvent moica, fessi, machin. Et donc c'est devenu un peu, les moica, par-ci, par-ça.
Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est péjoratif?
Parce que, en fait, donc, quand tu veux dire quelque chose, tu dis moica, tu vois, ça veut dire je fais ceci, c'est quand t'es en train de faire quelque chose. Et du coup, lorsqu'on est arrivé ici, les gens. Juste ce qu'ils retenaient, c'était moica. Mmh. Et donc, c'est devenu une façon d'appeler tout ce qui vient des Antilles.
Et surtout, c'est des Antillais qui vivent là-bas, qui souvent qualifient les Antillais d'ici. C'est ça, non?
Non.
C'est pas l'équivalent de négropolitain?
Non. Moi, j'ai jamais entendu le mot moica en Martinique.
D'accord, ok.
Ah, c'est un truc d'ici.
Ok, d'accord.
Et d'ailleurs, le morceau de Kalash, Chant du Moica,
Chanson
du Moica, c'est de ça dont ça parle.
D'accord.
Donc c'est vraiment, vraiment hyper intéressant.
Quel sujet je m'autorise à parler en créole? C'est ces questions-là que j'ai envie qu'on se pose. Est-ce que, je me dis, tiens, parlons des gilets jaunes en créole, voir ce que ça fait. Tiens, parlons de la présidence de Macron en créole, pour voir ce que ça fait. Tiens. Parlons de l'impact du téléphone mobile.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Moicast, le podcast qui prononce le mot goyave correctement. Aujourd'hui, je reçois l'auteur guadeloupéen Thierry Malo, alias Timalo. Nous évoquons ensemble, entre autres, la particularité d'être auteur de fiction en langue créole, une langue qu'il estime sous domination.
Ouais, je trouve que tous les épisodes sont très bien, mais big up particulier à l'épisode 7 avec Timalo, romancier guadeloupéen créolophone. Donc il s'entretient longuement avec Samora, c'est hyper intéressant. François Oulac et Kevin Donat ont aussi été invités.
C'est vrai, j'avais presque oublié.
Dans des épisodes du Moicast. Toi, t'étais passé avec Marvin de
Goudir. Oui, on a fait le premier épisode, le deuxième genre.
Le pilote, copinage,
quoi.
Le réseautage créole à Paris.
Tu veux qu'on en parle, Mélanie Wonga?
Ah, ouais.
Et puis il y a aussi un épisode super cool où il
reçoit Timalo, cette fois-ci avec Audrey Célestine, pour parler des 10 ans du LKP. Bref, c'est vraiment, vraiment bien ce qu'il fait. C'est encore un podcast noir de plus, cette fois-ci centré vraiment sur la question tillaise. Et puis, il le fait tout seul, il le fait en indépendant, parce que c'est bandant d'être indépendant. et voilà, plein d'amour, et allez écouter ça. Je crois que la première saison est bientôt terminée.
Elle est terminée.
Ouais. Mais voilà, il va faire plein d'autres trucs.
C'est marrant, l'article dont je vous parlais tout à l'heure, l'article de Vice que je vous mettrai en lien sur les telenovelas aux Antilles. L'une des personnes qui est interrogée, c'est justement Sam du podcast.
Ah ouais, c'est trop drôle.
Il est partout.
Voilà, allez mettre ça dans vos oreilles.
Alors moi, Marocco, en ce moment, je suis dans une phase de découverte musicale. J'écoute plein d'artistes, en fait, un peu au hasard, partout, sur Spotify. J'écoute des artistes sur lesquels je ne me serais pas penchée il y a encore quelques mois, mais du coup c'est là où apparaît Megan Thee Stallion, rappeuse de Houston.
Ça y est, t'écoutes du rap ?
Ouais, ça y est. Mais en fait j'ai découvert que j'ai un fait pour les rappeuses. Il y a peut-être un truc
je
derrière,
suis surpris.
Encore une fois.
J'ai quelques suggestions pour toi, alors si tu veux, okay. Je t'enverrai des liens.
Et donc, rappeuse de Houston, que j'ai découverte via surtout sa fanbase sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter notamment, où elle est très très suivie, très très soutenue, on lui donne beaucoup de love. À l'été 2018, Megan a sorti un EP qui s'appelle Tina Snow, qui est le nom de son alter ego. Et sur cet album, la chanson Big Ol' Freak, son premier hit à l'échelle internationale que j'avais déjà peut-être entendu. Big ol' freak, huh? Big booty, big ol' tree. I'ma make 'em wait for the pussy. Hit it in the big ol' ski. Ay. Feet on the bed. Ay. I fuck 'em up in the head. Suck it then look in his eyes. Then the next day I might leave 'em on red. Donc Megan Thee Stallion, qui tire son nom d'ailleurs du fait qu'elle fait 1m78. Est une rappeuse depuis l'âge de 14 ans. Sa mère était elle aussi rappeuse, elle est récemment décédée. C'était un peu son modèle, son inspiration. Et donc Megan, elle a des opinions assez claires sur le sexe, la confiance en soi, les relations hommes-femmes. Donc c'est des sujets sur lesquels elle rappe. Elle fait régulièrement dans les go trips. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle.
Ah,
ouais, je sais pas. Ça,
fait que t'as des ennemis, t'as des hosts, t'as des foes, t'as des haters.
Sans doute. Mais du coup, comme d'habitude, une rappeuse, donc on est envahi de commentaires disant qu'elle va remplacer une telle, ouais. Que Machi n'a aucune chance contre elle, parce que comme d'habitude, c'est une rappeuse, donc il peut y en avoir qu'une, hein, vous le savez, on le sait. Donc ce qu'on aime bien chez Megan, c'est qu'elle renvoie un peu une personnalité approchable. Il y a ses fans, donc sa fanbase, c'est les hotties, qui la soutiennent un peu depuis 4 ans, depuis qu'elle a commencé, et qui diffusent un message quand même très sex-positif, tendance féministe. Et du coup, Megan refuse de choisir dans son image entre l'Afrique et la fille intelligente, parce qu'elle est allée à la fac. Elle est hyper sexy, effectivement. Elle correspond au canon, grosse fesse, grosse poitrine. Mais elle aime les animés. Alors, j'ai pensé à toi, François, elle aime Inuyasha.
Ah, Inuyasha, c'est à l'ancienne, ça.
Ouais, d'accord. Apparemment, c'est... Voilà. Et justement, il y a certains mecs qui arrivent qui disent « Ouais, t'es une fausse fan d'animé, gna 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 » et tout. Et donc, elle les défonce à la suite sur Instagram.
Inuyasha, c'est un truc de OG, un peu, quand même.
Et en plus, elle a des préoccupations écologiques. Notamment, la dernière fois, il y a quelques jours, elle a fait un post en disant « Bon, j'en ai marre qu'on pollue les hotties, allez, c'est bon, vous allez recycler. » Enfin, il y a un côté vraiment à la fois personnalité web et en même temps rappeuse assez legit, quoi.
Bah, elle est 2019.
Voilà, ouais. Et du coup, alors, son nouvel album, Fever, c'est pour moi la recette parfaite pour l'été. Je l'ai écouté plusieurs fois de suite dans la rue. Je vous préviens, c'est très difficile de pas twerker en même temps qu'on l'écoute. Au bout de la cinquième chanson, là, ça commence à monter. Et notamment un petit big up à la chanson Cash It, qui est pour moi le hit inévitable de cet été. Donc, Megan Thee Stallion, avec ses clips un peu à tendance Blaxploitation, s'appelle elle-même, son petit surnom qu'elle s'est donné, c'est Black Regina George. Donc, les fans de Mean Girls qui nous écoutent auront la référence. Hein, parce que...
Mean Girl, le truc de cheerleader, là ?
Non, Kevin, le film Teen Movie, écrit par Tina Fey avec Amy Poehler.
J'ai pas vu.
Oh mon dieu, bon.
C'est la white culture, c'est pour ça.
Mais attends, pour une fois que j'ai pas vu un truc de comédie, tu vas pas me juger, toi, Mélanie, quoi.
C'est un classique.
On aura tout vu, quoi.
Non, mais quoi. Et du coup, Black Regina George, donc je m'attends, venant d'elle, à de grandes choses, et je recommande Megan Thee Stallion.
Elle fait plein de références à Three Six Mafia, et j'adore un groupe de Memphis, Tennessee, que j'adore. Bref, ouais, plus un. Alors Alors moi, je vais vous recommander une application qui va changer votre vie, tout simplement. Voilà, vous me remercierez plus tard. Je vais vous recommander une application qui s'appelle...
Tinder.
Eh bien, figure-toi que ça finit par Tinder. Oh, wow. Mais c'est pas Tinder, c'est Bucket Finder. Donc pour ceux qui, wow, et celles qui ne le sauraient pas...
Pas si mal.
Bucket Finder, donc le Bucket, c'est un sandwich traditionnellement guadeloupéen avec une sorte de pain... de pain frit dans lequel généralement on va mettre un petit peu de salade ainsi que du piment si on a bon goût, et puis ça peut être à base de poulet, il y a aussi des bucket morue, on fait aussi des bucket saucisse, mais j'aime un peu moins, mais bon bref, en gros le bucket c'est ce plat à la fois délicieux, accessible en termes de prix et consistant, c'est un peu l'équivalent du guadeloupéen du kebab. Ouais. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de bokits, il y a de plus en plus de restaurants déjà qui font des bokits ici en France hexagonale, mais aussi dans le monde au-delà de la France et des Outre-mer. Et Bucket Finder, c'est une application de géolocalisation qui vous permet de trouver très facilement le restaurant de bokit à proximité de chez vous. Donc c'est assez génial, vous avez le nom, vous avez les coordonnées, vous pouvez tout de suite les appeler pour vous faire livrer, ou s'ils ne livrent pas, vous pouvez vous rendre sur place directement pour tout simplement acheter votre bokit. Et quand tu regardes sur la carte, c'est un truc de ouf. Il y a des bokits dans des pays que j'aurais jamais imaginé.
Parce que c'est pas ça s'éloigne.
Mais oui, c'est une application de géologue.
Parce que tu m'avais montré, c'était juste centré sur Paris, donc je pensais que c'était une France.
Tu peux dézoomer. Donc déjà, évidemment, tu vas retrouver des restaurants bokits, évidemment, aux Antilles, Martinique, Guadeloupe. Ouais. Mais tu vas aussi retrouver des trucs genre en Espagne. J'ai vu des bokits en Espagne. J'ai vu des bokits aux États-Unis, frère. Aux États-Unis, il y a des bokits. C'est un truc de ouf. Et donc voilà, c'est pour être un ultramarin qui vit ici depuis l'âge de 6 ans, la difficulté de trouver des bons produits, des bons plats comme ça antillais, c'est une vraie problématique parce qu'on a ce truc où j'ai parfois le sentiment que la communauté antillaise ne se saisit pas assez souvent des moyens de production entre guillemets. J'ai l'impression que il y a pas assez de commerces qui vendent des produits
d'importation.
De quoi ?
Il y en a un pas très loin, le traiteur antillais à Ménilmontant. Tu m'as donné faim, j'ai pas mangé ce matin, j'y vais direct.
C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les restaurants de bokit, c'est un peu, jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à quelques années, je trouve que c'était un peu le truc, oh, t'as trouvé un bokit, trop bien, donne-moi l'adresse. Ouais. C'est un peu comme ça, le bouche à oreille. Et là, voilà, on a un outil super simple qui a été créé par un Guadeloupéen, donc qui s'appelle Michael Mass. Merci à lui. Et donc qui permet de trouver des restaurants.
Et donc la répartition des bokits par arrondissement, ça se passe comment à peu près ? C'est là où il y a
Alors je peux pas dire par arrondissement, j'ai pas zoomé à ce point-là. Évidemment, il y a une majorité écrasante à Paris, je peux te le dire. Il y en a pas mal à Bordeaux, évidemment.
Ouais.
mais voilà, franchement, évidemment, il n'y a pas de service de livraison comme on pourrait avoir pour Uber Eats ou des choses comme ça, puisqu'ils n'ont pas leur propre réseau de livreurs.
C'est juste un annuaire, quoi.
Voilà, c'est juste un annuaire, mais c'est déjà révolutionnaire. Ouais. Et donc, si vous ne connaissez pas le Bucket, je vous enjoins très fortement de goûter et de vous y mettre tout de suite. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vous allez être vraiment très heureux et heureux. Voilà, Bucket Finder, on vous mettra l'appli. Je ne sais pas si l'appli est disponible sur Apple. Ouais, je vérifierai. Je vérifierai.
Regarde ça tout de suite.
Dis-moi.
C'est disponible sur Bucket Finder est disponible sur Apple Store.
There you go. Allez-y, Bucket Finder.
C'était le Chip. On revient dans très peu de temps puisque notre prochaine émission sera en live, en public, le dimanche 9 juin à la Natural Air Academy au Parc Floral de Paris à 15h30. Pour y assister, vous pouvez acheter vos places sur nhaparis.com. Il n'est pas trop tard. On sera super content de vous voir.
Bien sûr, venez nous soutenir. Enfin, venez pas trop nombreux parce qu'on est déjà stressé, parce qu'on a peur qu'il y ait du monde. Mais en même temps, on veut qu'il y ait du monde.
Ouais, on veut pas faire ça devant 10 personnes quand même.
Ouais, voilà, mais pas non plus devant 500.
Il faut viser.
Venez nombreux.
Viser la lune.
Surtout nombreux parce que c'est.
Exactement.
Ce sera principalement public féminin.
Bien sûr, puis donner de la force à la NHA, bien sûr.
Bah oui, oui. Ouais. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, sur @thechippodcast. Pour l'occasion, on a mis en place un hashtag. Vas-y, François.
C'est hashtag ChipNHA. C'est voilà. Assez simple.
Donc, vous pourrez tweeter, Instagrammer les photos, les messages que vous voulez qu'on voit pour la Natural Air Academy. On sera super contents.
Prenez-nous en photo pendant le live, comme ça, on fera les nouvelles profile pics, s'il vous plaît.
On repostera. Vous pouvez, entre-temps, aussi nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, toutes vos applis de podcast habituelles. Oui, Kevin.
Je voulais dire, on est désolé pour l'absence aussi, on n'en a pas parlé, mais ouais. On a à peu près une dizaine de jours de retard. Mais ça veut dire qu'il y a deux épisodes en une semaine.
Ouais.
Puisqu'on enregistre lundi et on enregistre dimanche. Donc voilà.
Et vous pouvez également nous laisser une review sur Apple Podcasts, nous mettre 5 étoiles pour qu'on remonte dans le classement. Et cette émission est réalisée par Thomas Plé. coproduite par Binge Audio. Qu'est-ce qu'on a à dire avant de partir?
Bah, très vite, pas dans 15 jours, dans une semaine.
Oh, en live! Bisous!
On se voit en live.